Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Bonjour à tous. Chaque année en Espagne, après Noël, pour l'Épiphanie, un jour important et férié dans tout le pays, les enfants espagnols attendent avec impatience l'arrivée des rois mages. Melchior, Gaspard et Balthazar, leurs préférés. Le problème, c'est pendant longtemps dans les parades, Balthazar, le noble roi mage symbolisant l'Afrique au pied de l'enfant Jésus, apparaissait en Espagne sous les traits d'un homme blanc, maquillé de noir, avec parfois une large bouche rouge dessinée sur le visage. Depuis quelques années, sous l'impulsion des communautés afro-descendantes qui dénoncent les lourds stéréotypes racistes que cette supposée tradition charrie, cette pratique du blackface fait débat. Et à Madrid, depuis 2016, elle a été interdite. Madrid, capitale espagnole peuplée de plus de 3 millions d'habitants, c'est justement là qu'on vous emmène cette semaine, à la découverte d'afro-madrilènes qui font bouger la ville et les lignes d'un pays pourtant situé à seulement 14 km des côtes africaines, mais qui a encore du mal à regarder son passé esclavagiste et colonial en face. Madrid, l'africaine, c'est donc le voyage que nous propose Inès Edel Garcia, un voyage qui débute avec Vanessa Cadena, militante afro-colombienne de Madrid, dans un quartier métissé de la ville sur la bien nommée place Nelson Mandela, là où la présence noire se lit sur les murs.
En el mural pues se pueden ver a distintas personas, ¿no? Y de la comunidad, ¿no? Muy diferentes.
Sur cette fresque, on voit différentes personnes de la communauté, de différentes origines, mais qui s'acceptent et se respectent. Cette fresque représente effectivement assez bien ce qu'est le quartier de Lavapiés, qui est comme une grande famille. On peut voir aussi un enfant avec un t-shirt portant l'inscription Black Lives Matter. Ça symbolise la lutte antiraciste qui est menée dans le quartier par les différents collectifs qui organisent des activités ici.
Comment tu définirais la communauté afro à Madrid, ou plutôt les communautés afrodescendantes?
La comunidad negra y afrodescendiente aquí.
La communauté noire et afrodescendante à Madrid est très hétérogène. On a d'abord des personnes afro-espagnoles qui sont nées ici en Espagne. On a aussi des personnes africaines qui ont migré ici récemment. On a également des personnes d'Amérique du Sud qui sont afro-latinos, si on peut les appeler ainsi. Donc il y a une grande diversité d'origine au sein de notre communauté. Et on vit des réalités très différentes. Par exemple, moi qui viens d'Amérique du Sud, vu que je parle la langue, ça a été plus simple pour moi de m'adapter, de vivre ici. Alors que pour une personne qui vient, je ne sais pas, disons du Sénégal ou du Maroc, et ne connaît pas un mot d'espagnol, c'est sans doute plus compliqué. Mais je crois qu'il y a quand même une vraie unité entre nous, surtout depuis ces dernières années. On se respecte beaucoup entre nous et c'est important pour mener des projets, pour qu'on nous voit. Donc je dirais que la communauté noire est à la fois unie, quoique différente.
Aquí se ha querido borrar como la presencia de las personas negras.
Ici, on a voulu effacer la présence des personnes noires. On fait comme si elles étaient là depuis 20 ans seulement. En gros, depuis qu'on parle d'immigration. Mais en réalité, il y a toujours eu des personnes noires en Espagne. Ça ne fait pas du tout 20 ans que nous sommes ici, bien au contraire. Nous sommes là depuis des siècles.
Je sors de la station de métro Sol, j'arrive directement sur la Puerta del Sol, où se trouve le kilomètre zéro de l'Espagne et de Madrid, une référence pour toutes les cartes routières du pays. C'est ici aussi qu'on trouve l'emblème de Madrid, el escudo, qui est représenté par el oso y el madroño, un ours et un arbousier, Et sur cette place, j'ai rendez-vous avec Antumito Asiche. Il est historien, il est également militant panafricaniste et c'est le président du Conseil pour l'élimination de la discrimination raciale et ethnique. Hola Antumi.
Hola Inés, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Uf, mucho bien. Calor hoy.
Sí, sí, hace calor, sí, sí.
Entonces, ¿dónde estamos aquí? ¿O es qu'on est ici?
Aquí estamos al lado de la estatua ecuestre de Carlos III. El que se le conoce como el rey alcalde de Madrid.
Ici, on se trouve à côté de la statue équestre de Carlos III. Il est considéré comme le roi maire de Madrid pour tout ce qu'il a fait pour cette ville. Mais il faut aussi savoir qu'il a possédé plus de 21 500 esclaves. 20 000 en Abya-Yala, ce que les Européens appellent l'Amérique, et 1500 en Espagne.
Entonces fue un gran esclavista.
Carlos III a donc été aussi un grand esclavagiste.
Bueno, se inició el sistema de explotación esclavista en Abya-Yala.
Au début, quand on a démarré le système d'exploitation esclavagiste en Abya-Yala, on a mis en place l'asiento. L'asiento, c'est un contrat par lequel la couronne espagnole accordait à des marchands étrangers le droit d'introduire des esclaves dans la péninsule ibérique. Car contrairement au Portugal, à cette période, l'Espagne ne participait pas directement au trafic d'esclaves sur le continent africain. Non, elle se contentait de sous-traiter ce monopole et de négocier avec d'autres nations, le Portugal principalement, mais aussi l'Allemagne. C'était une pratique courante, mais précisément avec Carlos III, le commerce s'est libéralisé et des compagnies espagnoles ont commencé à aller directement sur le continent africain pour capturer, séquestrer ou acheter des personnes et les vendre sur place.
Puede servir de introducción para hablar de la larguísima relación entre España y África.
Cela peut d'ailleurs nous servir d'introduction pour parler de la très longue relation qu'entretiennent l'Espagne et l'Afrique. Des relations très anciennes qui remontent à la préhistoire. Autrefois, on disait que l'Afrique commençait au pied des Pyrénées. Et c'était vrai d'une certaine manière, parce que l'Espagne a eu beaucoup d'influences africaines. On nous vend toujours le fait que la plus grande influence nord-africaine en Espagne a été celle des musulmans à partir de 711. Mais il faut bien savoir qu'auparavant, il y avait déjà les Maures qui venaient d'Afrique du Nord. C'était des chrétiens, des juifs, ou bien des disciples d'autres religions traditionnelles d'Afrique du Nord qui avaient rejoint la péninsule ibérique bien avant. Et durant la période musulmane de l'Espagne, les Arabes jouaient certainement un rôle majeur sur le plan politique et parfois culturel, mais le cœur de la population qui vivait à cette époque sur la péninsule ibérique était une population nord-africaine. Et à ce moment-là, eh bien, la majorité de la population nord-africaine était noire. Par conséquent, on peut dire que l'identité espagnole est fondée sur cette relation entre des peuples qui viennent d'Afrique et des peuples qui viennent d'Europe.
Donc là, on arrive sur la Plaza Mayor, qui est très connue ici à Madrid.
Oui, ça c'est la place carrée typique qu'on retrouve dans toutes les grandes villes d'Espagne. C'est une place pensée principalement pour les manifestations du pouvoir. Par exemple, les processions de la Semaine Sainte, les autodafés, les exécutions aussi par l'Église catholique durant l'Inquisition. Eh bien, tout cela se déroulait dans des sites très visibles, comme celui-ci. Avant d'être aussi une zone de marché. Aujourd'hui, c'est un lieu très touristique et comme tu peux le voir, il y a plein de bars, de restaurants.
Entonces, bueno, aquí tenemos la puerta de Guadalajara, ¿no? Entonces, aquí en estos soportales, posiblemente.
Et donc ici, on a la porte de Guadalajara. Et sous ce porche, c'est là que se déroulaient les ventes aux enchères d'esclaves. On exposait les personnes réduites en esclavage et à côté, on posait une bougie. Et le temps que la bougie se consume, c'était le temps qu'avaient les gens pour faire une offre. Mais ce n'était pas la transaction la plus courante à Madrid. C'était plutôt la vente via des annonces entre particuliers. Tiens, regarde, si tu veux, je peux te lire quelques annonces.
Diario de Madrid.
Oui, on a ici le Diario de Madrid, qui est un des journaux les plus vieux de la ville. C'est là qu'on annonçait la vente des personnes réduites en esclavage. Tiens, par exemple, le mardi 20 juin 1797, on a une annonce qui dit « Un propriétaire vend un noir bien formé, âgé de 22 ans, de plus de 2 barres de hauteur, c'est-à-dire très grand. Celui qui veut l'acheter devra conclure l'affaire auprès de son maître qui vit Calle del Rosario, au numéro 8, à droite. » Donc on peut voir que ces annonces d'achat et de vente de personnes se trouvent à côté de celles d'animaux ou de n'importe quelle autre chose, des objets. Parce que ces personnes, à l'époque, étaient considérées comme des objets.
Et ces archives que vous avez sur votre téléphone, où est-ce qu'on peut les trouver ici à Madrid ?
Il faut savoir qu'il n'y a aucun musée consacré à cette histoire à Madrid. Les musées qui pourraient s'intéresser à ce sujet ne le mettent pas en avant, parce que ça a toujours été considéré comme une honte. Et évidemment que ça l'est. Mais c'est comme les guerres, comme toutes ces choses honteuses. Il faut les rendre visibles pour que ça se sache, que ça puisse être étudié et que ça nous oriente dans la bonne direction.
À Madrid, si aucun musée n'est spécifiquement consacré à l'histoire de l'esclavage en Espagne, le Musée de l'Amérique vient de lancer en octobre 2021 une exposition temporaire sur ce sujet et plus largement sur l'héritage africain et caribéen dans le pays. Ailleurs, dans la ville, il y a bien le Museo Africano, ouvert en 1985 par des missionnaires catholiques, mais il semble aux yeux de beaucoup encore trop poussiéreux et trop éloigné des perspectives décoloniales actuelles. Même chose au Musée national d'anthropologie, qui continue d'afficher des têtes noires, avec des traits exagérés et avec une certaine idée de primitivité du continent noir. En gros, dans les grandes institutions culturelles de Madrid, les visages et l'histoire noire demeurent donc largement invisibles et méconnus, comme maintenus dans un angle mort du récit national espagnol. Il faut donc aller les chercher. C'est ce qu'a fait Inès en compagnie d'Anna Cebrian. Depuis 2020, cette médiatrice culturelle s'attache auprès des scolaires à rendre visibles les figures noires dans les collections du Grand Musée National du Prado.
La vocation de San Mateo, lo que nos cuenta es que de repente Cristo se...
La vocation de Saint Matthieu représente l'apparition du Christ à Saint Matthieu. Et la particularité de ce tableau, c'est qu'en parallèle de cette scène religieuse, qui est traitée comme une scène de la vie quotidienne, eh bien on a la figure de l'artiste qui apparaît, en l'occurrence Juan de Parera. Juan de Parera est l'un des plus importants représentants du baroque espagnol. C'était une personne afrodescendante, une personne noire, et on le voit représenté sur le bord gauche du tableau, comme l'aurait fait son maître Velázquez. Juan de Parera était une personne réduite en esclavage, qui au départ faisait partie de l'atelier de Francisco Pacheco, le futur beau-père de Velázquez. C'est dans cet atelier que Velázquez s'est formé, avant justement d'épouser la fille de Francisco Pacheco. Et il semblerait que Juan de Parera ait été cédé à Velázquez en guise d'héritage, après quoi Velázquez va l'intégrer dans son atelier. Plus tard, Juan de Parera va devenir une personne libre, puisque Velázquez va finir par la franchir. Il va alors devenir un peintre indépendant, qui travaille pour les nobles, y compris pour la royauté et des institutions religieuses. On remarque alors que dans sa peinture, il s'éloigne un peu de la ligne de Velázquez, pour s'adapter à son époque. On sent qu'il est plus influencé par les artistes du moment, avec des éclats de lumière, des couleurs plus voyantes, plus de détails.
Juan de Parera, c'est une figure connue ici en Espagne ?
No demasiado. Es bastante desconocido. Quizá tenemos que dar mucha más visibilidad a esta
Pas assez. Il est assez méconnu. Peut-être qu'on devrait donner plus de visibilité à cette œuvre et à la figure de Juan de Parera. Parce que si on regarde cette œuvre, on peut aller au-delà de l'histoire et voir à quel point l'œuvre est remarquable par ses propres qualités. En tout cas, c'est une manière pour les personnes afrodescendantes de se voir reflétées dans cette œuvre. C'est un miroir. Beaucoup de gens viennent ici, juste pour ça, pour se dire « C'est vrai, nous avons toujours été là ». Et on ne peut pas nier le métissage qu'il y a au sein de la population espagnole. On parle de 8 siècles de la présence d'Al-Andalus et du monde arabe, qui a emmené avec lui sa diversité raciale, un métissage important. Et au-delà de l'héritage culturel, c'est resté dans la génétique espagnole.
Alors, on est à l'intérieur de l'église de la Virgen de Atocha. On a en face de nous l'autel avec une nappe verte et des dorures un peu partout. Et si on lève un tout petit peu les yeux, on aperçoit au-dessus de l'autel
une vierge noire avec un enfant dans les bras.
Oui, et dans la main, elle tient une pomme, qui est un savoir un peu subversif, puisque la pomme, c'est aussi la pomme d'Ève et d'Adam.
Del pecado, du péché.
Oui, le péché de la connaissance, c'est une représentation typique du Moyen-Âge. C'est une vierge noire, comme tant d'autres en Espagne. Et qu'est-ce que cela signifie ? Au sein de l'Église catholique, les personnes noires avaient une image associée au pouvoir. Mais avec le temps, c'est devenu une image associée aux personnes réduites en esclavage, aux personnes pour lesquelles il fallait compatir, etc. On a longtemps prétendu que ces statues anciennes avaient été noircies avec le temps, ou que c'était à cause du bois avec lequel elles ont été fabriquées, ou encore qu'elles avaient été noircies à cause d'un incendie. Enfin bref, tout ça, c'est un tissu de mensonges monté de toutes pièces plus tard. Parce que jusqu'au XVIIe siècle, toute la population d'Espagne croyait que la Vierge était noire. Ça me semble intéressant que les nouvelles générations, surtout afro, comprennent que l'image que l'Europe avait des personnes noires a beaucoup changé avec le temps. Avant, on nous considérait comme des personnes puissantes, riches. C'est d'ailleurs de là que vient le mythe du roi Balthazar, par exemple. Le roi Balthazar, qui donne de l'or, qui donne le plus de cadeaux, etc. Mais tout cela s'effondre avec la défaite des musulmans, la défaite de l'Afrique et l'esclavage de masse des Africaines et des Africains.
À partir del siglo XV, XVI sobre todo, el poder político en España.
À partir du XVe et surtout du XVIe siècle, le pouvoir politique en Espagne, qui se considérait germanique, et l'Église catholique, ont entrepris une politique de nettoyage ethnique. Ils voulaient expulser toutes les autres identités qui vivaient jusque-là dans la péninsule. Les identités africaines, celles aussi qui n'étaient pas catholiques, comme l'identité juive qui était très importante au sein de la péninsule, etc., etc. Résultat, ils ont effacé tout ce qui pouvait relever de l'africanité de l'Espagne. Et ce projet continue encore aujourd'hui parce que l'Espagne ne veut rien savoir, ou bien très peu, de sa relation avec l'Afrique. Elle veut au contraire développer son européanité, parce qu'au cours de l'histoire, cette africanité était d'abord considérée comme une insulte par le reste de l'Europe. Après la perte des colonies en Abya-Yala, l'Espagne a commencé au XVIIIe siècle à s'intéresser au continent africain, alors que jusque-là, ça ne l'intéressait pas de coloniser physiquement le continent. Elle s'est alors focalisée sur la Guinée équatoriale, un territoire que le Portugal lui avait cédé par traité. L'Espagne a alors décidé de coloniser la Guinée équatoriale de façon effective, en allant sur place. Et c'est le début de la colonisation là-bas. Puis, l'Espagne va avoir aussi une forte présence au Maroc et au Sahara. C'est peu forcément comparé aux autres puissances coloniales, mais ces populations issues de la colonisation ont beaucoup d'importance parmi les diasporas africaines de la péninsule ibérique. Et donc, encore aujourd'hui, l'Espagne vit en conflit avec tout ça. Et il faudrait vraiment qu'elle ouvre un jour les yeux là-dessus, parce que je crois que ça lui ferme beaucoup de portes. Mais ça, c'est encore un autre sujet.
Me llamo Justo Bolequia Boleca, ¿sí? Mi nombre tradicional es Ntabosopi.
Je m'appelle Justo Bolequia Boleca. Mon nom traditionnel est Tabusopé, c'est-à-dire le seigneur des écureuils. Je suis professeur à l'université de Salamanque depuis 34 ans. J'écris beaucoup de livres, de poésie, des contes, des récits, des essais sur la linguistique. Je suis né en Guinée équatoriale, dans le village de Santiago de Banay, quand c'était encore une colonie espagnole. J'ai connu un peu l'indépendance. Et après, je suis arrivé en Espagne le 7 juillet 1977. Ça fait presque 50 ans déjà.
L'indépendance, c'est 1968, c'est ça ? Donc après l'indépendance. Et pourquoi vous êtes venu ?
Tout simplement parce que quand tu es en Afrique, dès que tu entres à l'école primaire, on commence à te formater psychologiquement. Tout ce que tu fais à l'école, au lycée, c'est lié à l'Espagne. L'Espagne, c'est logé dans ta mémoire. Tu parles espagnol, tu connais la géographie de l'Espagne, tu connais la cuisine espagnole, donc mécaniquement tu te dis « je dois aller à la rencontre de l'Espagne ». Moi, je suis venu ici pour apprendre, pour étudier et revenir ensuite en Guinée équatoriale. Mais évidemment, je n'ai pas pu revenir à cause de la situation politique là-bas. Donc je suis resté ici. À ce moment-là, je me suis dit, non, je ne peux pas rester ici et être le noir qui ne sait pas exactement où il va. Non. Je dois prouver que moi aussi, je suis espagnol.
Et comment les gens réagissaient quand vous disiez à l'époque que vous arriviez de Guinée équatoriale ?
Déjà, il faut savoir qu'à cette époque, les plus vieux connaissaient l'existence de la Guinée équatoriale. Ils l'avaient bien en tête. Ils savaient que ça avait été une colonie espagnole parce qu'à l'école, on leur avait parlé de la Guinée espagnole. Certains étaient allés là-bas, d'autres avaient encore de la famille sur place, donc pour eux, ce n'était pas quelque chose d'inconnu. En revanche, la plupart des gens en Espagne ignoraient qu'après l'indépendance de la Guinée équatoriale, on vivait sous une dictature très dure. Il n'y avait aucune information sur les atrocités commises par le régime du premier président, Macias Guema. En fait, les gens étaient surtout curieux de savoir comment on vivait là-bas et ce qu'on pouvait apporter ici, en tant que personne différente.
Vous avez l'impression que cette histoire coloniale de l'Espagne sur le continent africain, elle est visible, elle est connue aujourd'hui ?
Non. L'histoire coloniale de l'Espagne en Afrique est méconnue parce que l'Espagne s'est efforcée d'effacer cette histoire. Pourquoi ? Parce que ça ne s'est pas bien passé. Comment l'effacer ? Eh bien, en l'enlevant des livres, des manuels, en n'en parlant pas. C'est comme si elle avait honte. Les relations entre la Guinée équatoriale et l'Espagne sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire tendues en permanence. Comment voulez-vous que l'Espagne rende visible cette histoire si déjà elle cherche à effacer de la mémoire collective la présence de Franco, si elle veut elle-même effacer sa propre histoire ? Le passé a beau avoir été horrible, il fait partie de l'histoire. S'ils font ça avec leur propre histoire, tu crois vraiment que celle de la Guinée équatoriale a de l'importance pour eux ?
Escuchar esto. Soy yo, Cano. Zaman, Zaman, Zaman. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire.
Bailar, coge mi melilla.
¡Eva!
Música sin fronteras.
En Madrid, Lavapiés significa un barrio mestizo, multicultural.
À Madrid, Lavapiés représente un quartier de métissage, multiculturel et diversifié. C'est aussi un quartier de lutte, d'activisme, avec tout un tas d'espaces où il se passe plein de choses intéressantes. Ici, il y a des associations de Sénégalais, des associations de Bangladais, des associations féministes. Il y a des coiffeurs afro, des restaurants, mais on a tous à cœur de défendre ce quartier, son identité populaire. Lavapiés, c'est donc vraiment un quartier où se tissent et se croisent différents liens communautaires.
Avec notre reporter Inès Edel Garcia et Elena Garcia, activiste et anthropologue métisse, on continue d'explorer Madrid l'Africaine dans le quartier de Lavapiés, situé dans le centre. Jadis berceau de la communauté juive, ce quartier a toujours accueilli les nouveaux arrivants dans la ville, venus du sous-continent indien ou bien d'Afrique. Et depuis quelques années, il est devenu prisé aussi des street artistes, des touristes et des promoteurs immobiliers. Mais, comme vient de le dire Elena, également membre de l'association SENAE, soit Communauté Noire Africaine et Afro-Descendante en Espagne, Lavapiés résiste et affiche encore un visage militant et populaire. Un visage, des visages que l'on retrouve sur les murs du quartier. À commencer par celui de Mamen Baye, un Sénégalais sans papier, décédé en 2018 d'une crise cardiaque après une course-poursuite avec la police. Après sa mort, comme sortie de l'ombre, des centaines de ces hommes déjà survivants des Pateras vont alors se rassembler avec les habitants de Lavapiés en sa mémoire, mais aussi pour protester contre le sort qui leur est réservé en Espagne. On retrouve Inès et Elena.
Là, on vient d'arriver dans la boutique du syndicat des Manteros, les vendeurs de rue à la sauvette. Ça s'appelle Pantera. Elle a ouvert il n'y a pas longtemps. Il y en avait déjà une à Barcelone, mais à Madrid, c'est tout récent. Ici, ils vendent différents produits pour aider financièrement la communauté, pour payer les frais de justice des vendeurs de rue ou les amendes. Et là, tu vois, il y a un t-shirt à l'effigie de Mamen Baye, ce vendeur de rue qui est décédé à Madrid en hommage à sa mort et pour se souvenir de notre lutte.
Il y a une tonne de t-shirts différents, dont un noir avec écrit « Madrid será la tumba del racismo ». Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ici, cette phrase ?
Oui, ça c'est une phrase qui s'utilise beaucoup dans les rassemblements antiracistes. C'est un slogan récurrent, mais ce n'est pas la phrase originelle. La phrase originelle vient de la guerre civile espagnole. Pendant la guerre civile, une grande banderole avait été érigée pendant un temps sur la Puerta del Sol, jusqu'à ce que Franco remporte la guerre et l'enlève. Cette banderole disait « Madrid sera la tombe du fascisme ». Et ça a toujours été une revendication de l'antifascisme espagnol, de la gauche espagnole. Madrid sera la tombe du fascisme, même si ça n'a pas été le cas. Et donc cette phrase s'est transformée aujourd'hui en « Madrid sera la tombe du racisme ». Et on espère que cette fois, elle le sera.
Moi, je suis parti de Saint-Louis, à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, sur une petite embarcation. Je suis d'abord arrivé à Tenerife, ensuite Madrid. Après quoi, j'ai passé une semaine avec la Croix-Rouge à La Coruña et je suis revenu à Madrid. Et donc, depuis 2006, j'ai toujours vécu à Madrid.
Serine Baye, militante antiraciste et personnalité politique madrilène d'origine sénégalaise.
Je me souviens très bien d'un texte quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol au Sénégal, au lycée. Il y a une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Por la Gran Vía. La Gran Vía se trouve dans le centre de Madrid. C'est là où se trouvent les cafés, théâtres, cinémas, hôtels, une foule de personnes. Donc moi, j'idéalisais Madrid et je me disais, si je réussis à aller en Europe, la première chose que je ferai, ce sera de trouver du travail. Quand je suis arrivé à Madrid, je pensais que j'allais obtenir un travail immédiatement, mais ça n'a pas été le cas. C'était complètement différent de ce que j'imaginais avant de venir.
Mais vous vous sentez madrileño ?
100%. À 100%, parce que je crois qu'en vivant depuis 15 ans à Madrid, en faisant tout ce que font les madrilènes, je suis de Madrid, totalement.
Et donc, vous avez travaillé en tant que vendeur à la sauvette, c'est comme ça qu'on dit en français. Combien de temps ?
Je crois que j'ai été vendeur à la sauvette pendant deux ans et demi, quelque chose comme ça. Mais j'avais beaucoup de problèmes, les jugements en attente, la détention parce que je n'avais pas de papier. C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Mais tous les quatre matins, tu te fais interpeller. Un policier te montre sa plaque ou te demande tes papiers. Si tu ne les as pas, eh bien, tu dors au commissariat. C'était terrible. Du coup, en même temps que j'apprenais l'espagnol, je faisais des petites formations pour pouvoir arrêter de vendre dans la rue. Parce que c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, pas plus qu'à mes camarades. J'ai donc fini par arrêter de travailler comme vendeur à la sauvette et j'ai cherché à gagner ma vie autrement.
Los manteros del sindicato, ils sont de quelle nationalité en règle générale ?
La majorité sont sénégalais. Il y a aussi des gars de Gambie, quelques-uns du Mali. Mais en grande majorité, ce sont des Sénégalais.
Alors, vous, Sérigne, vous avez été mantero pendant un temps. Et aujourd'hui, vous êtes élu à l'Assemblée de la Communauté autonome de Madrid depuis 2021. Quel parcours ? Vous êtes le premier élu noir à la Communauté autonome de Madrid, si je ne me trompe pas. Comment vous en êtes arrivé là ?
Moi, je me suis toujours dit, pas de politique. Mais en fait, j'ai toujours fait de la politique. Parce que l'activisme, c'est aussi de la politique. C'est se positionner, mais d'une autre manière. J'ai étudié l'histoire et je sais ce qu'il s'est passé avant, de l'esclavage à la colonisation. Donc c'est quelque chose que tu as en toi, qui te remue de l'intérieur et qui te donne envie de lutter contre toutes ces discriminations et tout ce qui s'est passé à travers le temps. À cela, tu ajoutes le travail que j'ai exercé en tant que pêcheur et les contrats de pêche du Sénégal avec l'Union européenne qui épuisent toutes nos ressources et qui m'ont obligé à venir jusqu'ici en bateau. Sachant qu'une fois arrivé ici, j'ai vécu la discrimination, juste parce que je suis noir et étranger. Tout ça finit par faire partie de toi. Ça s'accumule et ça te motive à te battre pour les sans-papiers, pour la lutte antiraciste. C'est pour ça que le parti de gauche Podemos m'a contacté. Et je vous assure, mon arrivée à l'Assemblée a révélé le racisme qu'il y avait à Madrid. Surtout avec les attaques contre les immigrés de l'élu d'extrême droite Rocío Monasterio du parti Vox. Je pense sincèrement qu'on doit être présent en politique et qu'on doit poursuivre cette lutte. Il faut qu'ils nous voient tous les jours, partout, pour que le racisme finisse par disparaître.
El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Que no se engañen amigas y amigos, porque el racismo no es una enfermedad, es mucho más simple, es una decisión, tú eliges color o corazón que te define, dime. El rap ya decidió y aquí se está de cine, rodeado de un montón de iconos del rap que te insisten. En que no existe persona más triste que la que mide si le sirve según sea tu origen. Países, razas, solo son chismes. No mires lo que nos divide y no habrá divisiones sin rencor. Voy a dejártelo claro, no tengo temor. Tú no eres superior, reconoce el valor de cada autor. Parece que no les importa quedar en falta con nuestro señor. Error, no discrimines, recuérdate siempre que un logro no tiene color. Tu dolor a la inocencia misma. La piel de Michael Jackson fue negra, fue blanca y su voz la misma. El podio se prende, con arte se conquista. El odio se aprende, nadie nace racista. Nos hicieron desnudos, pusieron muros y vallas, banderas y fronteras.
Bonjour, Micha. C'est votre boutique? C'est la maison Bécha. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur cette porte ?
Ici, on a Bienvenue, et qui est abierto. Et j'ai mis un peu de ma langue natale, qui est Boye y Malamu, qui signifie la même chose des trois.
Dispensa solidaria antiracista.
Si tu es raciste, il ne faut pas entrer, parce que tu n'es pas bienvenu. Et voilà.
On peut rentrer pour voir ?
Oui.
C'est très coloré, on a plein de tissus. C'est du wax ?
On a tout ici, on a du wax, on a bogolan, on a presque tous les tissus d'Afrique, et voilà.
Et tous ces tissus, ils viennent d'où ?
Comme on est l'union d'Africains, d'Espagne, l'association vient de tous les pays de l'Afrique. comme moi, je n'ai pas la possibilité de faire un conteneur envoyé, alors tous les amis qui partent au Cameroun, ils l'amènent. Sénégal, ils l'amènent un peu. Congo, ils l'amènent un peu. Angola, Burkina, Togo, Guinée-Conakry, Mali, Sénégal. On a les tissus de partout ici parce qu'on est beaucoup.
On voit beaucoup de choses ici. Il y a des vêtements, il y a des tissus, il y a des sacs remplis de vêtements, de donations. Il y a aussi des sandwichs qui ont été préparés. Il y a plein de choses qui représentent un petit peu tout ce que vous êtes.
Oui, ici, c'est un lieu qui réunit l'Afrique de l'Espagne. Et comme l'Afrique, c'est la mer, voici la mer. Ça se trouve ici. Si tu viens ici, il y a la maman qui te comprend, qui t'écoute, qui t'attend, qui peut te consoler. Si moi, je ne suis pas là, je pense que tous mes collègues qui sont là font la même chose. Si tu as besoin d'eau, on te donne l'eau. Si tu as besoin de manger, on te donne la manger. Si tu as besoin d'avoir un habit africain, on cherche à le faire à ton idée, à ton mesure. On le réalise, on te donne. La pandémie est venue et j'étais obligée. Ben, je ne suis pas à l'aise chez moi parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. On a créé le projet de faire les sandwichs. Alors ici, on avait tous les jours 50 familles qui dépendaient de nous pour manger. 150 plus ou moins.
Par jour ?
Par jour, de lundi à dimanche. Moi, de mon parcours, j'ai reconnu beaucoup de réalités. Moi-même, j'ai dormi dans la rue.
Quand est-ce que vous êtes arrivée à Madrid ?
Ben, je suis arrivée ici en mars 2007. Moi, je suis née au Congo, je suis grandie en Angola, j'ai vécu en Afrique du Sud, un peu de Gambie, j'ai fait la Belgique, j'ai fait France, et voilà. Pour bien dire, je n'avais pas l'idée de rester à Madrid parce que je suis congolaise, je parle français, là où je devais apprendre la langue, je devais recommencer tout à zéro. Mais je n'avais pas peur parce que j'ose et je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras et voilà.
Vous avez quel âge, Bécha? Parce que quel parcours quand on vous entend?
Moi, je pense que ce n'est plus l'âge, c'est l'expérience. J'ai 36 ans. Bécha, c'est une fille qui a beaucoup travaillé en Espagne, pas seulement à Madrid. On a fait Madrid, Barcelone, beaucoup de festivals pour montrer ce qui est notre culture avec positivité, pour enlever un peu ce qui est discrimination et les racismes qui déroulent dans l'Espagne. Parce que nous, les Noirs, on fait un geste solidaire. Je pense que tout le monde qui ont fait l'Afrique, ils ont vécu ça, la solidarité et l'amabilité et l'humanité qui se trouve en Afrique. Et on a des illustres en Afrique, on a beaucoup de vaillants en Afrique, on a beaucoup de gens qui font des choses qui ne sont pas dévoilées. Et c'est que moi, je suis activiste, vrai activiste, je veux les changements, je veux les changements. Et je pense que c'est les femmes qui vont gouverner tout le monde le jour de demain. Et je suis l'un de ces femmes.
Olé.
Fomentar el proyecto de Unión Africana de España. No voy a extenderme mucho, solamente es transmitir la cultura africana, transmitir la afropositividad. Aparte de esto, tenemos también la despensa antirracista que mucha gente de aquí conoce, ¿no?
Le racisme, c'est la grande affaire de tous ces militants qui cherchent à mettre le doigt sur les discriminations, à déconstruire aussi les biais anciens, devenus ordinaires, hérités d'une culture postcoloniale insidieuse, en l'adossant à la politique migratoire actuelle. Une tâche complexe, car les études sur le sujet sont rares en Espagne, surtout qu'on a déjà du mal à évaluer le nombre d'afro-descendants et d'Africains dans le pays. On parle alors de 1 à 2 millions de personnes noires en Espagne, dont 700 000 seraient de nationalité espagnole. En 2020, après la mort de George Floyd aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter a secoué l'Espagne et Madrid. Parce que las vidas negras importan, toute une génération de jeunes militants afro-espagnols s'est alors imposée dans l'espace public. Parmi eux, Jason Garcia López, un des fondateurs de Conciencia Afro. Cet afro-colombien a grandi en Espagne et il a donné rendez-vous à Inès dans un endroit de Madrid qu'il connaît bien.
Estamos en el Centro de Creación Contemporánea Matadero.
Ici, nous sommes au centre de création contemporaine Matadero. C'est un ancien abattoir qui a été réaménagé pour en faire un espace de référence au sein de la ville de Madrid en matière de création culturelle. Pendant les 5-6 dernières années, cet espace a accueilli le festival Conciencia Afro. Notre mouvement est d'ailleurs né avec le festival en 2016. Parce qu'après le festival, les gens ont réclamé plus de 2 jours d'activité. Ça n'était pas suffisant pour eux. Du coup, on a proposé au Matadero d'avoir l'Espacio Afro, c'est-à-dire un laboratoire d'idées où les personnes africaines et afro-descendantes pouvaient partager des envies et les besoins de la communauté.
Deux projets communautaires, la revista Digital Negres et l'équipe d'éducation afro-fronterizos.
À partir de là, on a lancé 2 projets communautaires, la revue en ligne Negres et le projet éducatif Afronteziros. Ce sont des ateliers qu'on mène dans les collèges et les lycées autour du racisme. On a lancé un autre projet en collaboration avec l'Association des juristes afro-européens. C'est le cabinet juridique. Il propose des consultations totalement gratuites sur les questions de papier ou de lutte contre le racisme. Enfin, on a l'espace afro-féministe, qui est notre dernier projet et qui propose des ateliers de rétablissement. Parce qu'après le Covid, on a voulu réfléchir aux questions de santé mentale au sein de la communauté africaine et afro-descendante. Avec Conciencia Afro, d'une certaine façon, on a amené un autre public dans ce genre d'espace. C'est un pari qu'on a fait, celui d'occuper l'espace public. Parce que nous aussi, nous faisons partie de cette ville.
Vanessa, tu es la coordinatrice de la revue Negres, qui existe depuis 3 ans à peu près. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites au sein de cette revue ?
Ce projet est né avec l'objectif de créer un média d'expression, un espace où l'on parle de la communauté afro, mais aussi qui permet à la communauté elle-même de raconter ses propres histoires. Parce qu'ici, en Espagne, c'est encore rare qu'un média traditionnel s'empare de ces sujets.
Où en est l'état du racisme en Espagne et à Madrid en particulier ?
Madrid est une ville plus sûre que d'autres endroits en Espagne pour les Noirs, parce que c'est un lieu où affluent beaucoup de personnes, ce qui fait que les gens sont sans doute plus ouverts d'esprit. Mais ça ne signifie pas que tu ne peux pas avoir des problèmes ici. Par contre, je crois qu'on ne doit pas trop insister sur les discriminations directes et individuelles. Par exemple, quand on t'insulte dans la rue en criant « Negra de mierda », ce genre de choses. Selon moi, ces situations ne sont pas si courantes, même si ça arrive aussi. Mais en se focalisant là-dessus, on a tendance à minimiser le vrai problème qui est le racisme structurel, dont on ne parle pas assez. On a tendance à l'intérioriser alors que cela fait beaucoup de mal. Il y a toujours eu ici des publicités, des marques qui ont utilisé des personnages et des discours racistes, qui étaient en quelque sorte intériorisés par la population et dont on ne parlait pas. C'est une façon très subtile de perpétuer les préjugés racistes et dont je crois nous ne sommes pas toujours conscients.
Hasta hace muy poco, las personas que hacían los anuncios de Colacao eran personas blancas con la cara pintada de negro.
Par exemple, pendant longtemps, les personnes qui figuraient dans les publicités de Colacao étaient des personnes blanches, le visage peint en noir, qui portaient un os sur la tête. Colacao, c'est une boisson pour les enfants à base de cacao. Et jusqu'à récemment, Colacao affichait une représentation, disons, animalisée des personnes noires. Ils ont même créé une chanson qui disait « Ici, je suis le petit noir de l'Afrique tropicale », comme si c'était drôle de se moquer des personnes noires. Si, il y a quelques années, je pensais que la pub Colacao était raciste, je le gardais pour moi. Je n'osais même pas en parler. Maintenant, les réseaux sociaux te permettent de t'exprimer et tu peux dénoncer en un tweet la campagne publicitaire de Colacao comme étant raciste et d'un coup, ça devient viral. Avant, on pouvait peut-être y accorder de l'importance, mais ça ne devenait pas un sujet polémique. Ça n'atteignait pas les grands médias.
À los grandes medios de comunicación.
realmente si en algún momento, o sea, en algún momento se han dado procesos de apertura dentro de...
En fait, si les institutions ou les partis politiques ont récemment ouvert le débat sur ces questions, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu le faire, mais parce que des associations, des activistes comme nous, ont tellement poussé ces sujets que ça les a obligés à se positionner. Mais ils ne l'auraient jamais fait de leur propre initiative, parce que ça ne leur apporte rien sur le plan électoral.
Moi, je m'appelle Ruben, je suis photographe et cinéaste et je suis le cofondateur de Conscientia Afro. Il y a, c'est vrai, très peu d'intérêt pour des sujets comme la race, le racisme, la colonisation ou l'esclavage. Et je suppose qu'il y a plusieurs raisons à ce silence. La première, c'est que l'esclavage et le travail forcé ont enrichi beaucoup de gens. La deuxième, concernant la colonisation en Guinée équatoriale, eh bien, c'est qu'au sortir du franquisme, toute cette histoire a été classée secret défense. Il n'y avait, pour ainsi dire, plus de son, plus d'image. On ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas consulter les archives. Il y a un conflit sur la question raciale en Espagne que nous-mêmes, les Espagnols, nous devrons un jour résoudre. Et je crois que c'est lié à tout ça.
Quand on a démarré notre collectif, comme je le disais tout à l'heure, l'un des premiers projets qu'on a lancé, c'était nos ateliers dans les écoles, afin de réfléchir avec les jeunes sur le passé colonial et esclavagiste de l'Espagne. Et les jeunes ne savaient absolument rien. Le passé colonial de l'Espagne, dans les manuels scolaires, c'est généralement dans le dernier chapitre, qu'on n'a pas le temps d'aborder. Sinon, c'est un sujet que les professeurs choisissent eux-mêmes de ne pas aborder. Donc il n'y a pas de réflexion en tant que telle. Moi, je suis afro-colombien. Je suis né à Cali, en Colombie, et je vis à Madrid depuis 9 ans. Et ce dont on parle beaucoup, par contre, ici, c'est la relation de l'Espagne avec l'Amérique du Sud, les liens culturels qui nous unissent. Mais en aucun cas, on en parle sous l'angle de la conquête, comme on l'appelle au sein du mouvement antiraciste. Quand on évoque 1492, on en parle toujours comme d'une découverte et jamais d'une conquête.
100% d'accord avec Jason. Je suis meilleur que lui.
Oui, je suis 100% d'accord avec Jason, et moi, je suis plus âgé que lui. Donc en 1992, j'avais 10 ans, et c'était les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Et je me souviens, ils en ont fait des tonnes sur les bienfaits de tout ça. Ce sont des sujets dont les partis politiques ne se saisissent pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'être plus forts pour justement pousser ces débats et qu'ils aient du sens. Mais pour l'instant, si tu interroges quelqu'un dans la rue, il va te dire « la race, le racisme, non, ça n'existe pas, nous sommes tous égaux ». C'est ce genre de discours qui prédomine aujourd'hui en Espagne. Et moi, quand je vais en dehors de l'Espagne, je ne sais pas, en Angleterre, en France ou au Portugal, je constate que le débat est beaucoup plus avancé, ou disons qu'il se déroule en d'autres termes. On a encore beaucoup de travail devant nous.
Madrid, l'Africaine, c'était un reportage d'Inès Cédel Garcia qui s'inscrit dans notre série de voyages à la rencontre des diasporas africaines et du passé noir des grandes villes, que ce soit à Bruxelles, Berlin, Paris, Montréal ou Lisbonne, l'Africaine. Vous pouvez les retrouver en podcast à la réécoute sur notre site rfi.fr, émission Si loin, si proche. Merci à Inès Cédel Garcia et à tous les intervenants de ce reportage. Merci aussi à celles et ceux qui ont bien voulu prêter leur voix et leur temps pour nos traductions. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, on vous salue et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages.